C'est toujours vraiment captivant d'observer comment un simple petit changement de vocabulaire peut complètement restructurer un concept. Un concept qu'on pensait pourtant parfaitement maîtrisé.
C'est vrai que ça surprend toujours.
Aujourd'hui, notre exploration en profondeur nous plonge dans un texte spirituel d'une densité analytique assez remarquable. Ce document s'intitule « Le scellé du pardon, ta stabilité retrouvée ».
Un titre déjà très très fort.
Ouais, très fort. Et l'objectif de notre échange aujourd'hui, c'est de décortiquer une vision extrêmement singulière de cette notion de pardon. Parce que dans notre culture contemporaine, l'approche dominante du pardon, elle est presque exclusivement thérapeutique en fait.
Absolument, on est très axé sur la psychologie.
Voilà. On l'envisage comme un long processus de deuil émotionnel, de guérison intérieure. Une quête de résilience qui prend parfois des années.
Des années de travail sur soi, oui.
Mais les sources qu'on examine aujourd'hui, elles balayent complètement cette approche. Elles abordent le pardon non pas comme un sentiment, mais comme une mécanique spirituelle stricte. Presque froide dans son exécution, mais redoutablement efficace.
Et c'est une observation fondamentale pour bien aborder ce texte, parce qu'il bouscule vraiment les paradigmes habituels de l'introspection. Pour poser un peu le cadre de notre analyse, il faut préciser que ce document décline sa thèse à travers trois prismes majeurs.
D'accord.
Premièrement, il redéfinit le pardon comme un acte administratif et juridique, ce qui, on va le voir, heurte de front notre besoin de validation émotionnelle.
Ah, ça pour heurter, ça heurte.
Deuxièmement, il présente cet acte comme l'unique clé d'une stabilité pérenne. Une stabilité rendue possible par un concept très spécifique qu'il nomme l'union de substance.
L'union de substance, ouais.
Et enfin, il conceptualise cette démarche comme un point final littéral. Une clôture de cycle qui est indispensable pour ouvrir un nouveau chapitre et permettre à l'individu d'assumer son statut juridique de citoyen de la patrie céleste. En gros, c'est une architecture de pensée qui ne laisse aucune place au compromis.
Alors décortiquons un peu tout ça, parce que le premier prisme, c'est sans doute celui qui suscite le plus de dissonance cognitive au premier abord. Le texte utilise expressément l'expression « acte administratif ».
Oui, les mots sont pesés.
Le contraste entre cette sémantique et la réalité de l'expérience humaine, c'est vertigineux. Face à la douleur aiguë d'une trahison, on attend de l'empathie, de la chaleur, une reconnaissance du préjudice. Et là, le texte nous renvoie à la rigueur procédurale d'un guichet officiel.
Un guichet froid et impersonnel.
Exactement. Il y a une volonté évidente de juxtaposer la brûlure de l'offense avec une terminologie clinique. Pourquoi est-ce que la source insiste autant sur cette déconnexion absolue entre l'action de pardonner et l'état émotionnel de la personne blessée ?
En fait, ce qui est fascinant ici, c'est que cette déconnexion est le cœur même du système proposé. La source stipule très clairement, et je cite, « le pardon n'est pas une émotion passagère ».
D'accord.
En utilisant ce champ lexical de l'administration, le texte affirme que faire dépendre une décision spirituelle majeure d'une fluctuation hormonale ou émotionnelle, c'est une erreur stratégique.
Parce qu'on est trop instable, c'est ça ?
C'est ça, l'être humain est volatile. Attendre de sentir l'envie de pardonner, ça revient à paralyser son propre développement. Un acte administratif, par nature, est indépendant de l'humeur du fonctionnaire qu'il signe.
Ouais, et qu'il soit de bonne humeur ou pas, il tamponne le papier.
Exactement. C'est une démarche formelle. Et sa fonction première, selon le document, c'est de valider un raccordement avec la justice du ciel. En relâchant formellement le débiteur, donc la personne qui a offensé, l'individu accomplit une mise en conformité juridique. Il scelle sa propre position de fils.
Donc on n'est pas du tout dans une thérapie.
Pas du tout. C'est l'actualisation d'un statut.
Ce qui implique que l'attente de cet apaisement émotionnel, c'est en fait un piège. Si je saisis bien la logique, on signe le document d'abord, et on laisse les émotions s'aligner ensuite.
C'est exactement l'ordre des choses, oui.
Et c'est d'ailleurs ce qui donne tout son sens à cette métaphore sonore qui est présente dans la source. Le texte dit « Le non-pardon est un bruit de fond qui empêche d'entendre les instructions de notre patrie céleste ».
Une image très parlante.
Ouais, on pourrait presque comparer ça à du brouillage électromagnétique en temps de guerre. L'ennemi n'a même pas besoin de détruire le centre de commandement. Il lui suffit de saturer la fréquence radio avec un bruit parasite continu.
Et les troupes sur le terrain ne reçoivent plus aucune directive.
Voilà, c'est le silence radio forcé.
Ce mécanisme est décrit à la perfection. La rancune, le fait de repasser mentalement le film de l'injustice qu'on a subi en boucle, ça agit comme une technique de brouillage de signal.
Ça prend toute la place dans la tête.
L'esprit est tellement saturé par cette fréquence spécifique du préjudice que la bande passante spirituelle est littéralement anéantie.
Les instructions, la sagesse ou les orientations stratégiques en provenance de cette patrie céleste sont bien émises, mais elles se heurtent à ce mur d'interférence. La communication est rompue.
Donc poser cet acte administratif de pardon, ça ne relève pas de la charité envers celui qui nous a fait du mal.
Non, c'est une mesure de survie tactique pour soi-même. Il s'agit d'éteindre le brouilleur de fréquence pour restaurer la clarté de la ligne de communication avec son propre commandement.
Et si cette ligne de communication vise à recevoir les instructions de la patrie céleste, ça soulève tout de suite la question de l'appartenance. Le texte introduit l'idée d'une nationalité céleste.
Un concept majeur du texte.
Dans notre cadre juridique matériel classique, une nationalité, ça se prouve par un passeport. Mais ici, le critère d'évaluation semble reposer sur la réaction de l'individu face aux agressions extérieures. Comment cette citoyenneté spirituelle se manifeste-t-elle concrètement face à l'hostilité du monde ?
Eh bien, la preuve de cette nationalité, selon la grille de lecture de la source, c'est la capacité à ne plus être assujettie à ce qu'elle nomme les dettes terrestres.
Les dettes terrestres ?
C'est fondamental. Les dettes terrestres englobent toutes les offenses, les injustices, les calomnies ou les préjudices qu'on peut subir dans la sphère humaine. Si un individu est continuellement déstabilisé, altéré et conditionné par ses offenses, le texte en déduit qu'il opère toujours sous la juridiction du monde d'en bas.
Il réagit selon les lois de la gravité terrestre, pour filer la métaphore.
C'est ça. En revanche, démontrer sa nationalité céleste, c'est faire preuve d'une forme d'immunité diplomatique. L'offense a lieu, oui, mais elle ne déclenche plus l'obligation de réclamer son dû.
D'accord.
Et cette immunité n'est pas le fruit d'un effort moral épuisant, elle découle d'un changement de nature, d'un phénomène que le document appelle l'union des substances, avec le maître.
Alors penchons-nous sur cette notion d'union de substances, parce que le choix des mots n'est pas anodin. Il ne s'agit pas d'une simple proximité idéologique, d'une alliance ou de copier un comportement. Le terme « substance » renvoie à l'ontologie, à l'essence même de ce qui compose l'être. Si l'individu fusionne au niveau substantiel avec ce maître, les propriétés de l'un sont transférées à l'autre.
Votre analyse est très juste. C'est un véritable transfert de propriétés. Lorsque l'individu atteint ce degré d'union, une transformation défensive radicale s'opère en lui. L'architecture interne change.
Ce n'est plus l'ego qui est aux commandes.
Exactement. Ce n'est plus l'ego humain qui est fragile et prompt à la susceptibilité qui encaisse le choc de l'offense. C'est la nouvelle substance qui réceptionne l'impact. Le texte utilise d'ailleurs une image visuelle extrêmement précise pour illustrer cette nouvelle propriété physique et spirituelle.
Oui, l'image de la pierre précieuse, je la trouve fascinante. La source affirme que face à cette union, l'offense glisse sur l'individu comme l'eau sur une pierre précieuse. L'analogie est particulièrement sophistiquée.
Elle illustre parfaitement le changement d'état.
Parce qu'un être humain non renouvelé, face à la rancune, il fonctionne généralement comme une éponge. Il absorbe le liquide toxique de l'insulte, il s'engorge, son poids augmente, sa structure se déforme sous la pression de l'eau sale.
Et le seul moyen de s'en libérer, c'est de subir une pression douloureuse pour l'expulser.
C'est tout à fait ça. Alors qu'une pierre précieuse, comme un diamant par exemple, possède une structure cristalline si dense et si parfaite qu'elle est totalement imperméable. L'eau toxique la frappe, certes, l'impact initial existe.
Mais le liquide ne peut tout simplement pas pénétrer le réseau atomique.
Il n'a d'autre choix que de glisser en surface. L'offense perd son pouvoir d'altération.
Cette imperméabilité structurelle, c'est le but recherché. Néanmoins, la source ne présente pas cet état comme un acquis passif. Il y a une condition de maintien très exigeante qui repose sur une variable inattendue. Le document précise que la stabilité spirituelle dépend de la vitesse à laquelle on transforme une blessure en une opportunité de grâce.
La vitesse !
L'introduction du facteur de la vélocité modifie complètement l'équation. La stabilité dont on parle n'est pas l'immobilité lourde d'un rocher posé au sol. C'est un équilibre dynamique qui requiert de l'énergie et de la vitesse.
Ça me fait penser à la physique des systèmes dynamiques, comme la stabilité gyroscopique. Un gyroscope ou une toupie ne maintient son axe parfaitement droit face à la gravité que parce qu'il tourne à une vitesse extrêmement élevée.
C'est un excellent parallèle.
Tant que la vitesse de rotation est maintenue, on peut même le frapper sur le côté. Il absorbera le choc et restera droit. Mais si la rotation ralentit, la moindre pichenette extérieure le fait vaciller et il finit par s'effondrer sous son propre poids. Le texte semble dire que le délai entre l'offense et le pardon, c'est l'équivalent de cette perte de vitesse.
C'est d'une grande précision. L'idée reçue la plus tenace dans notre culture, c'est que le temps guérit les blessures.
Cette maxime encourage un processus passif, où l'on accorde au temps le droit de diluer la rancune sur des mois ou des années.
On laisse traîner, quoi.
La source s'inscrit en faux contre cette idée. Elle exige une vélocité presque instantanée. Attendre pour pardonner, c'est laisser l'infection gagner du terrain. C'est perdre de la vitesse de rotation.
Plus on attend, plus on est vulnérable. Maintenu, on peut même le frapper sur le côté, il absorbera le choc et restera droit. Mais si la rotation ralentit, la moindre pichenette extérieure le fait vaciller et il finit par s'effondrer sous son propre poids. Le texte semble dire que le délai entre l'offense et le pardon, c'est l'équivalent de cette perte de vitesse.
C'est d'une grande précision. L'idée reçue la plus tenace dans notre culture, c'est que le temps guérit les blessures. Cette maxime encourage un processus passif où l'on accorde au temps le droit de diluer la rancune sur des mois ou des années.
On laisse traîner, quoi.
La source s'inscrit en faux contre cette idée. Elle exige une vélocité presque instantanée. Attendre pour pardonner, c'est laisser l'infection gagner du terrain. C'est perdre de la vitesse de rotation.
Plus on attend, plus on est vulnérable.
Plus le délai de traitement de cet acte administratif s'allonge, plus l'intégrité structurelle de l'individu est compromise. La grâce doit être appliquée immédiatement sur la blessure pour maintenir cette force gyroscopique intacte.
Mais alors, quelle est la conséquence mécanique d'un ralentissement prolongé si l'individu refuse d'enclencher cette procédure rapide? S'il choisit délibérément de conserver l'offense pour s'en nourrir ou réclamer justice à sa manière? L'effondrement dont on parle prend une forme bien spécifique dans le document. Il est fait mention du danger absolu d'essayer de vivre dans deux royaumes à la fois.
Ce grand écart juridictionnel est décrit comme mortel sur le plan spirituel. D'un côté, la personne revendique son appartenance à la patrie céleste, aspirant à sa paix et à ses privilèges, mais de l'autre, en s'accrochant à la dette de l'offenseur, elle exige l'application des lois de la rétribution terrestre.
Elle joue sur les deux tableaux.
Elle maintient un pied fermement ancré dans le système de justice mondain basé sur la vengeance et la comptabilité des fautes. Et le texte utilise une formulation d'une grande sévérité pour décrire le résultat de cette tension. Cela provoque une déchirure dans ton atmosphère.
Une déchirure atmosphérique. Les implications de ce terme sont massives. On ne parle pas d'une simple contrariété passagère, on parle d'une dépressurisation totale.
C'est une question de survie.
Si on prend l'exemple d'une capsule spatiale, l'atmosphère intérieure est pressurisée pour permettre la vie dans un vide hostile. Une déchirure, même minuscule, dans la coque provoque une fuite immédiate de l'oxygène vital et l'environnement intérieur devient incapable de soutenir la vie. Refuser de pardonner équivaut donc à percer soi-même la coque protectrice de son propre écosystème spirituel.
Pour fonder la gravité de cette dépressurisation, la source s'appuie sur une référence biblique précise, tirée de l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 13 et 14.
Que dit ce passage ?
Ne soyez plus esclaves du passé. Portez le vêtement neuf de ceux qui ont tout relâché pour tout posséder en Christ. Il y a ici l'énoncé d'une loi spirituelle de la substitution.
Il faut choisir ce qu'on garde en main.
C'est un principe physique basique. On ne peut pas saisir un objet nouveau si l'on garde des poings fermés sur un objet ancien. L'esclavage du passé mentionné ici n'est pas une entité abstraite qui nous opprime de l'extérieur. C'est la crispation volontaire de nos propres mains sur nos dossiers de rancune. Le texte exige de tout relâcher, de faire le vide, pour que la capacité de réception soit restaurée.
Pour permettre de revêtir ce vêtement neuf, c'est-à-dire l'intégralité des bénéfices de cette citoyenneté céleste.
C'est ça.
Et c'est au cœur de cette exigence de relâchement que la source introduit une dichotomie qui peut sembler brutale, voire même offensante, si elle est mal comprise. Le texte affirme que le père aime trop l'individu pour laisser une dette imaginaire le priver de son héritage réel.
Les termes sont forts.
Très forts. Remplaçons le concept vague de l'offense par une réalité concrète. Imaginons une trahison professionnelle dévastatrice où un associé vole le travail de toute une vie, ou une trahison familiale profonde qui détruit une réputation. Qualifier la souffrance générée par ces actes de dette imaginaire semble nier la réalité de la douleur humaine. Comment est-ce qu'on peut justifier un tel vocabulaire ?
Il est impératif de comprendre l'échelle de valeur employée par la source. Le texte ne nie en aucun cas la réalité factuelle du préjudice, ni la douleur psychologique bien réelle qui en découle. L'offense est qualifiée d'imaginaire uniquement lorsqu'elle est mise en balance avec l'économie de l'éternité.
C'est une question de perspective.
C'est un problème de taux de change. Dans la juridiction de la patrie céleste, la monnaie de la vengeance terrestre n'a absolument aucune valeur d'échange. L'héritage réel représente la plénitude de la destinée spirituelle, l'accès ininterrompu à la sagesse et à la paix. S'obstiner à exiger le remboursement d'une dette terrestre, c'est sacrifier un empire éternel pour récupérer quelques pièces de fausse monnaie.
Vu sous cet angle, c'est une très mauvaise affaire.
L'analyse du texte est que l'amour divin est précisément ce qui refuse de cautionner une transaction aussi ruineuse pour l'individu.
En somme, refuser de pardonner pour obtenir réparation humaine, c'est s'acharner à gagner un procès aux petites créances pendant que la maison mère prend feu. C'est une erreur colossale d'allocation des ressources. Ce constat nous conduit à l'ultime étape de cette mécanique, la conclusion logique de tout ce système, ce que le texte appelle le secret final.
Le point culminant du processus.
Si l'acte administratif est signé à la bonne vitesse pour sceller la déchirure et protéger la pierre précieuse, le pardon devient alors un point final. Il clôture littéralement le chapitre.
La matérialisation de ce point final est encapsulée dans une sentence d'une très grande profondeur stratégique. La source nous dit « On ne finit pas une guerre en gagnant un combat, mais en déposant les armes de l'amertume ». C'est une inversion totale de notre conception classique de la résolution des conflits.
Tout à fait. L'approche humaine standard, particulièrement dans un conflit où l'on estime être dans son bon droit, c'est l'escalade asymétrique. On veut écraser l'argumentaire de l'autre, on exige des excuses publiques, on cherche la victoire par la capitulation pure et simple de l'adversaire.
On veut le voir plier.
L'instinct nous hurle que la guerre se termine lorsque l'autre reconnaît sa défaite et notre suprématie morale. Or, la source soutient l'exact opposé. La victoire passe par le désarmement unilatéral intérieur.
Parce que chercher la victoire par la destruction de l'adversaire, c'est accepter de rester sur le champ de bataille. Tant que l'individu exige la reddition de l'autre, il est le prisonnier de sa propre guerre de tranchées. Le conflit absorbe son énergie, dicte ses pensées et maintient le fameux bruit de fond dont on parlait au début.
Il met ce branché sur la mauvaise fréquence.
Déposer les armes de l'amertume, ce n'est pas un aveu de faiblesse ou une validation du tort subi. C'est une déclaration de souveraineté. C'est refuser de laisser l'offenseur dicter son état intérieur. Ce désarmement volontaire est l'unique action capable d'apposer ce point final, empêchant ainsi le conflit d'écrire la moindre ligne supplémentaire dans l'histoire de la personne.
Ce point final a un objectif d'une limpidité absolue. Il permet un raccordement pur et sans obstacle. Une fois les armes posées, la bande passante est dégagée, la communication est rétablie, la déchirure est colmatée. L'instruction finale de la source peut alors résonner et être effectivement suivie « va en paix ».
Une paix véritable.
Une paix qui n'est pas une simple cessation des hostilités ou une trêve fragile, mais l'état naturel d'un citoyen solidement établi dans sa juridiction dorée.
C'est la restauration parfaite du système. L'offense avait pour but de déloger l'individu de sa position. L'acte administratif, exécuté avec vélocité, a court-circuité cette tentative. L'union de substances a prouvé son imperméabilité et le désarmement a garanti qu'aucune séquelle interne ne subsiste. Le dispositif est conçu pour être infaillible, à condition d'en respecter scrupuleusement le mode d'emploi.
Ce qui ressort de cette exploration, ce n'est pas une incitation à la passivité, mais au contraire un manuel d'arts martiaux spirituels d'une technicité redoutable. On retient cette nécessité de déconnecter l'acte de la validation émotionnelle pour en faire une pure formalité administrative. On retient la mécanique gyroscopique, c'est la vitesse de l'exécution qui garantit la stabilité et permet à l'union de substances de faire ricocher l'offense.
Comme l'eau sur la pierre.
Et on garde en mémoire le coût exorbitant de la rancune. Cette déchirure atmosphérique qui nous ruine en nous poussant à chasser une dette illusoire au détriment d'un empire réel. Le pardon n'est pas un cadeau fait à l'ennemi, c'est l'ultime mesure de protection de notre propre capital spirituel.
C'est la synthèse parfaite. L'enjeu désormais, face à la prochaine offense inévitable, n'est plus d'évaluer la gravité de l'attaque ou de sonder ses propres émotions pour savoir si l'on est prêt à pardonner. L'enjeu est l'application stricte et immédiate de la procédure. Il faut signer l'acte, rétablir la communication et maintenir sa position. Tout le reste, y compris le sentiment de justice, est secondaire face à l'impératif de maintenir son intégrité substantielle.
Et c'est justement sur cette subordination de notre besoin viscéral de justice à cette procédure stricte que l'on peut pousser la réflexion encore un peu plus loin, pour prolonger cette immersion. Si la rancune crée véritablement une déchirure atmosphérique et un bruit de fond, on peut se demander combien d'instructions cruciales pour notre propre avenir avons-nous manqué simplement parce que nous étions trop occupés à écouter les échos d'une dette imaginaire ? Et si le véritable coup de l'amertume n'était pas la douleur du passé, mais le vol pur et simple de notre futur? Cela amène à repenser fondamentalement la nature même de ce que nous appelons la réparation.